Scan Imo, une émission présentée par Chris Mondet en partenariat avec Meilleurs Agents, numéro 1 des comparateurs d'agences.
Bonjour à tous et bienvenue pour notre 76e numéro de Scan Imo, le module audio qui décrypte l'actualité immobilière avec une pointe d'humeur et toujours avec une pincée d'humour. Je vous rappelle le concept de Scan Imo, toutes les semaines on vous informe des dernières actualités immobilières, des études exclusives, on rencontre des experts de l'immobilier, des intervenants qui vont vous donner des conseils pour vous faciliter votre métier d'agent immobilier. Bref, Scan Imo, le podcast qui donne des astuces pour faciliter votre prospection et le recrutement des vendeurs. Allez, sans transition, si je vous dis réseau... mandat, indépendant, et de quoi je vais parler ?
Chris, on parle de quoi aujourd'hui ?
Eh bien, des mandataires. Apparu dans les années 2000, le mandataire désigne un commercial immobilier agissant sous le contrôle et l'accompagnement de l'agent immobilier avec lequel il a passé un contrat. Il est habilité à établir des mandats, à mettre en relation offreur et acquéreur, à vendre des biens et surtout à transmettre au notaire les documents de vente. Il est utile de rappeler qu'il y a 20 ans, cette forme de métier était inconnue dans le secteur de l'immobilier. Cette profession est toute jeune, les amis. Par définition, les mandataires immobiliers sont en règle générale des agents commerciaux indépendants. Ils peuvent aussi opter pour un statut d'auto-entrepreneur. Ces négociateurs immobiliers doivent, avant de se lancer, obtenir une attestation auprès de la CCI, la Chambre du commerce et de l'industrie. Il s'agit donc de personnes physiques qui travaillent à leur compte, mais se mettent au service d'une personne morale, l'agence immobilière dite pilote, qui est à la tête du réseau et à qui le mandataire verse une redevance et généralement une partie de ses commissions. En contrepartie, le réseau qui ne dispose pas d'agence physique met à la disposition de ses agents sa notoriété et divers outils lui permettant d'optimiser le fonctionnement de son activité. Formation, assistant juridique, accompagnement commercial grâce à l'accès aux fichiers clients et à l'interface de l'agence pilote. La loi Auguet qui régit cette profession impose que la mission de l'agent mandataire soit strictement définie à travers un mandat écrit. Le mandataire immobilier ne réalise pas d'opérations immobilières en son nom propre. Il agit pour le compte ou au nom du réseau avec lequel il a contractualisé. Ce dernier le rémunère à l'issue d'une vente dans les conditions prévues par le contrat qu'ils ont conclu. L'agent mandataire émet donc une facture pour chaque opération réalisée. Cependant, dans quasiment tous les cas, l'agent mandataire doit anticiper le fait qu'il ne pourra pas se rémunérer durant ses premiers mois d'activité, car il y aura un décalage entre le début de son activité et ses premières ventes. Pour autant, il devra être en mesure d'assurer ses frais fixes et la redevance qu'il versera au réseau pour pouvoir exercer en son nom. Du coup, réseau mandataire, est-ce que c'est un bon plan ? Réponse avec...
L'invité du jour est...
Vincent Pavanello, bonjour.
Bonjour Chris.
Vous êtes cofondateur et président de la Maison des Mandataires, qui est une plateforme dédiée aux mandataires. Déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer le concept ?
Alors, le concept de la maison ou le concept du mandataire ? Je peux vous faire les deux.
Alors, la maison déjà, puis après le mandataire, on fera ça dans un deuxième temps.
Alors, la Maison des Mandataires, c'est en fait la première fois, je pense, historiquement, que les réseaux de mandataires, donc c'est les grands, moyens, petits réseaux de mandataires, il y a à peu près une centaine de réseaux en France, il y en a une dizaine qui ont rejoint la maison des mandataires, une vingtaine, pardon, qui ont rejoint la maison des mandataires. C'est la première fois, je disais, je pense, dans l'histoire, que ces grands réseaux-là se fédèrent, essayent de mener des combats communs, essayent de faire parler du sujet des mandataires en le considérant comme un écosystème commun et dans lequel ils sont tous partie prenante. Et la Maison des Mandataires est simplement, j'allais dire, l'endroit où ces gens-là se retrouvent. Donc, c'est une société que j'ai créée avec mon frère et qui a pour ambition de défendre le modèle des réseaux mandataires, de promouvoir les marques et les enseignes et de participer aussi à la montée en gamme de cet écosystème.
Alors, du coup, justement, comment fonctionnent les réseaux de mandataires aujourd'hui ?
Il faut toujours moi j'aime bien définir ce qu'est un mandataire par rapport à ce qu'est un agent immobilier plus traditionnel, non pas pour dire que c'est mieux ou que c'est moyen, mais simplement pour que chacun puisse bien comprendre. Il y a deux différences principales entre un mandataire et un conseiller immobilier, on va dire classique, comme on l'imagine souvent. Premièrement, c'est que il n'y a pas d'agence physique dans le modèle des mandataires, donc c'est au fond un agent sans agence. Et ça a été la vision historique des fondateurs de ces grands réseaux dès les années 2000, de se dire que ce métier de conseiller immobilier, disons d'agent immobilier pour prendre un langage plus courant, mais de conseiller immobilier, de négociateur immobilier, il pouvait être très bien fait avec un conseiller qui se déplaçait au domicile des vendeurs et pas forcément avec des vendeurs qui se déplaçaient dans l'agence immobilière, disons au coin de la rue. Ça, c'est la première grande différence. La deuxième grande différence, c'est que là où dans les agences, il y a beaucoup et essentiellement des salariés, les négociateurs, les conseillers immobiliers sont majoritairement salariés dans les agences, dans le modèle des réseaux de mandataires, 100% des conseillers sont indépendants. Et là, c'est vraiment la deuxième différence. Et là aussi, c'est une vision qu'ont eu les fondateurs des grands réseaux il y a quelques années et qui a trouvé un écho très favorable dans la société française où il y a, je ne vous l'apprends pas, un désir d'indépendance, d'émancipation très fort. Et donc aujourd'hui, pour les gens qui veulent être conseillers immobiliers et qui veulent être indépendants, les réseaux de mandataires apportent une plateforme, apportent une solution qui est assez séduisante. C'est pour ça que leur nombre est passé de quelques centaines de mandataires dans les années 2000 à aujourd'hui plus de 40 000 conseillers immobiliers rattachés à des grands réseaux. Donc le succès et l'attractivité de cette offre-là, pour les indépendants, elle se matérialise dans les chiffres.
Alors, on va en reparler hein, d'ici quelques minutes, mais quelles sont les forces des réseaux mandataires? C'est justement ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... ils sont pro-digitaux, ils n'ont pas d'agence physique. C'est quoi les forces des mandataires aujourd'hui?
Je pense qu'il y a plusieurs forces dans la construction. La première force, je crois que ça c'est très important, c'est d'avoir imaginé l'offre la plus complète et la plus attractive pour les gens qui voulaient être conseiller immobilier indépendant. Alors cette offre attractive, elle passe par plusieurs choses. D'abord, une vraie volonté d'ouvrir le jeu et de casser les barrières à l'entrée de ce métier-là. Dans ce métier-là, avant, si vous vouliez être un entrepreneur de l'immobilier, il fallait acheter une licence d'une grande franchise, ça coûtait assez cher. Il fallait acheter des outils informatiques, parfois là aussi, il y avait des licences qui coûtaient assez cher. Il fallait, si vous étiez une agence plus indépendante, aller négocier en direct avec les grands portails qui, on le sait, sont très chers pour les petits et un peu moins chers pour les gros, hein, c'est une logique de volume. Donc, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Je pense que le premier facteur clé de succès des réseaux mandataires, c'est d'avoir remis à plat tout ça et de dire, ça coûte zéro de devenir un conseiller Safety, AD, Capifrance ou que sais-je. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de licence d'entrée. Deuxièmement, on vous offre un pack à 150€ par mois ou 200€ par mois en fonction des réseaux qui comprend déjà les outils informatiques, l'accès au grand portail. Et ça, je pense que c'était un point très important. Donc, premièrement, ils ont cassé les barrières à l'entrée qui existaient. Deuxièmement, ils ont imaginé un système de rémunération qui, à mon avis, est plus juste puisque les conseillers immobiliers captent entre 70 et 90% des commissions, là où un conseiller immobilier salarié, en plus de son salaire, souvent aura des pâquerettes, capte plutôt 20 à 25% des commissions dans les agences physiques. Et pour les agents co, donc des conseillers immobiliers indépendants, mais qui sont rattachés à une agence physique, le chiffre monte plutôt à 50, maximum 55. Donc, à 70-90, on voit que les réseaux ont imaginé un modèle de rémunération qui est plus juste. Et puis, troisième et dernier point, les réseaux ont imaginé un système où les bons conseillers immobiliers, ceux qui avaient déjà fait leur preuve, allaient être en mesure de développer leur propre équipe. Et donc, de passer du statut de producteur et uniquement producteur au statut de « je suis producteur à mi-temps, par exemple, ou à 3-4 temps ». Et puis, sur le quart de temps qui me reste, je suis manager d'une équipe de conseillers que je recrute, que je forme, que j'accompagne dans leur développement et dont je récolte une partie des fruits de la réussite. Et ça, je crois que pas de barrière à l'entrée, du sens dans les rémunérations, capacité à créer une équipe, ce sont les trois facteurs de clé de succès qui ont permis à ces réseaux d'attirer des conseillers, des talents et au fond d'avoir le succès qu'on connaît aujourd'hui.
Alors oui, j'entends. Maintenant, tout le monde peut devenir mandataire, en fait, ce que vous êtes en train de dire, du jour au lendemain. Malgré tout, il y a quand même des formations immobilières, il y a des diplômes. Alors, il y en a qui sont plus doués que d'autres, hein, évidemment. Comment les réseaux mandataires recrutent les profils? Parce que on peut être un bon commercial, mais est-ce qu'on est un bon mandataire aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a l'impression que tout le monde peut être mandataire.
Là, je vais répondre à cette objection qui est juste. Dans le recrutement des réseaux de mandataires, il y a à peu près 80% des gens qui sont en reconversion, qui viennent d'un autre secteur, et 20% de gens qui viennent de l'immobilier. Mmh. En fait, c'était à peu près les chiffres qu'on retrouvait dans les gens qui ouvraient des franchises des grandes enseignes vitrées. D'ailleurs, dans les campagnes de communication des grandes enseignes vitrées, on disait souvent on recherche l'ancien directeur commercial d'une boîte, d'une PME en province qui pouvait monter l'agence du coin, etc. Donc, il y avait déjà cette volonté d'être un outil de reconversion. Donc, ça, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Après, effectivement, les réseaux de mandataires laissent leur chance à plus de gens. Ça, c'est quelque chose qu'on peut assumer, mais ils contrebalancent ça avec pas mal de garde-fous. D'abord, le premier, c'est qu'il y a un vrai effort de formation qui est fait au moment où les gens arrivent dans le réseau. Alors, chaque réseau a plus ou moins son offre de formation, mais nous, on a essayé d'ailleurs de les lister, enfin d'en faire la comparaison sur notre comparateur, sur notre site maisondesmandataires.com, où on essaie de voir les formations. Mais il y a souvent des programmes de formation initiaux, puis après continus, qui sont assez lourds. Donc, on essaie d'apprendre ce métier qui est un métier qui n'est pas très difficile techniquement pour, j'allais dire, réaliser sa première vente. Ce qui est difficile dans ce métier, c'est de développer une expertise. Et ça se développe au long cours. Et au fond, c'est ouvert à des gens motivés, curieux d'apprendre, qui savent retenir et se servir du savoir qu'ils ont emmagasiné et en faire un vrai socle d'expertise. Ça, c'est ouvert, j'ai envie de dire, à tout le monde. Donc, premier garde-fou, bah effectivement, la formation qui est offerte. Deuxième garde-fou, les réseaux monétaires n'acceptent pas tout le monde, contrairement à une légende et à une rumeur qui circule parfois. Il y a un degré de sélection qui est plus ou moins fort selon les réseaux, mais des réseaux qui sélectionnent beaucoup, d'autres qui sélectionnent un peu moins, mais il y a au fond une sélection. Et puis troisièmement, ce sont des entrepreneurs. Donc le conseiller immobilier, en l'occurrence mandataire, qui ne serait pas bon, qui n'arriverait pas à attirer ou à convaincre des vendeurs de lui confier un mandat, ou qui, une fois le mandat confié, n'arriverait pas à le convertir en transaction, bah, j'ai envie de dire, il y a un système assez logique qui fait qu'au bout de quelques mois, c'est une personne qui cessera d'exercer. Et ça, c'est pareil dans les agences physiques. Les agences physiques recrutent aussi beaucoup d'agents commerciaux indépendants. Bon, bah effectivement, ceux qui réussissent pas, d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas les compétences pour réussir, bah d'eux-mêmes, en fait, sortent du jeu. Et donc, c'est un modèle assez sain où, au fond, au fur et à mesure, il ne reste que les très bons conseillers. Et donc, c'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui dans les réseaux mandataires, comme on l'a observé dans d'autres modèles plus traditionnels.
Alors, est-ce que vous avez un chiffre à nous transmettre issu de votre dernière étude sur le nombre de transactions réalisées par les réseaux des mandataires en 2020? Il semblerait qu'il y ait une différence entre 2010 et 2020.
Alors, énorme différence. Alors, nous, on raisonne en part de marché, du marché intermédiaire. Pour expliquer à tout le monde, il y a à peu près 1 million de transactions par an là depuis 2-3 ans. Il y en a à peu près 700 000 qui sont intermédiés par des conseillers immobiliers professionnels, enfin au sens large. On estime, nous, que sur ce marché-là, les réseaux mandataires avaient 3% du marché. En 2010, ils sont passés à 20% du marché en 2020. On sortira les chiffres à la rentrée 2022 pour l'année 2021, mais je dois vous dire que ils ont continué à croître et considérablement, ce qui est une très bonne chose. En termes de des parts marché qui augmentent considérablement, en termes de nombre de transactions, ça représente à peu près 150 000 transactions en 2020 faites par les 100 réseaux de mandataires, même si les 10 plus gros réseaux de mandataires font à peu près 95% ou 90% du total. Donc, on voit que c'est assez concentré quand même sur une dizaine de gros ou moyens acteurs, au mieux une quinzaine de gros et moyens acteurs. Donc, 150 000 transactions. Ce qu'il faut peut-être noter aussi, c'est que le plus gros transactionnaire en France, contrairement à ce qu'on pense, c'est IAD. IAD fait à peu près 50 000 transactions par an, là où Century 21, Orpi, qui étaient les anciens leaders, sont nettement en dessous, hein, plutôt entre 35 000 et 40 000 grand maximum. Et dans le top 10 d'ailleurs des plus gros transactionnaires en France, on retrouve Safety, on retrouve Capifrance, on retrouve beaucoup de réseaux de mandataires. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment installés à la fois en part de marché en pourcentage et aussi en part de marché en valeur absolue.
Comment voyez-vous les réseaux mandataires dans 5 ans, Vincent? C'est-à-dire que les agents immobiliers, ils sont aussi là, les mandataires, ils seront là aussi. Le but, c'est qu'ils font quand même, ils ont une passion commune, qui est l'immobilier, ils sont des businessmen. Donc, il y a un moment, ils vont se croiser, ils ne vont pas se haïr comme ça.
Moi, je suis le premier à défendre, encore la semaine dernière, à un congrès de la FNAIM pour débattre avec les représentants du modèle plus traditionnel. Moi, je suis convaincu qu'il y a de la place pour les deux modèles. Alors, ça fait toujours un peu démago de dire ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Je pense qu'il y a plein de marchés où le fait d'avoir une vitrine, et où il y a encore un effet vitrine, disons, dans des avenues très fréquentées, dans des lieux prestigieux, dans les centres-villes des grandes villes, je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour les agences vitrées. Et franchement, il y a aussi des grands professionnels dans ces agences vitrées, et j'y ai pour ma part beaucoup d'amis. Donc, loin de moi l'idée de dire qu'un modèle va totalement remplacer l'autre, ce serait totalement irréaliste. Pour autant, moi, mon pronostic, j'essaie de le démontrer dans le rapport, mais c'est que cet écosystème, enfin ce modèle des réseaux de mandataires va continuer à croître et croître fortement. Sauf à considérer que les ingrédients qui ont permis la croissance des 5 ou 10 dernières années ne seraient plus là. Mais si on parle par exemple de l'ingrédient, les Français ont un désir d'émancipation, de créer leur boîte, d'être entrepreneur. Bon, bah, il y a 2500 nouveaux auto-entrepreneurs par jour en France depuis la rentrée de septembre. Ça n'a jamais été aussi élevé. Donc, on voit qu'il y a ce désir très fort. Ils vont pas tous devenir conseillers immobiliers, mais un certain nombre vont faire ce choix-là, et ils ont bien raison, parce que c'est un métier, vous l'avez dit, qui est un métier passionnant. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comment, enfin, il y aura un nombre. Deuxièmement, comment va réagir le client final? Moi, je pense que le client final, il a de plus en plus envie d'avoir un entrepreneur en face de lui. On le voit dans d'autres pans de l'économie. Je pense que ça rassure les gens de savoir que la personne en face d'eux, c'est son business, c'est son gagne-pain de faire des transactions. Sous-entendu, si la personne en face de moi ne fait pas le deal, il n'aura pas de revenus ce mois-ci. Et ça, je pense qu'en tant que client, c'est quelque chose qui nous rassure beaucoup et qui nous permet d'être persuadé, d'être certain que les intérêts entre mes intérêts en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur, mais plus généralement en tant que vendeur, et les intérêts du conseiller immobilier qui m'accompagne sont parfaitement alignés. Donc moi, je pense qu'à la fois du côté de la production, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont vouloir faire ce métier-là, je pense que tous les voyants sont au vert. Et du côté du consommateur, du client final, je crois qu'il y a aussi un désir, alors aussi d'avoir une commission qui est en moyenne un peu plus faible. Hein, estime qu'il y a un écart, la commission moyenne dans les réseaux mandataires est plutôt 1000 à 1500 euros moins cher que ce que font les agences physiques, avec des taux qui sont un peu plus bas pour les mandataires, mais surtout le fait pour le client d'avoir un entrepreneur en face de lui. Donc production, consommation, producteur, consommateur, je crois que tous les voyants sont au vert, et donc moi je prédis que la croissance va se maintenir à un rythme de 20 à 25% par an pour cet écosystème-là, jusqu'où on verra bien, mais en tout cas je pense que le plus enthousiasmant reste à venir.
Wow, que c'est beau pour finir sur ces paroles.
Scan Imo, c'est déjà fini?
Encore merci pour toutes ces informations, Vincent Pavanello. Maintenant, vous avez toutes les clés pour devenir incollable sur les réseaux de mandataires. Et pour votre culture Imo, surfez sur Wikimo Pro, le mag info de meilleurs agents. On vous concocte toujours des contenus hyper intéressants. Allez, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Imo.
Scan Imo, une émission présentée par Chris Mondet en partenariat avec Meilleurs Agents, numéro 1 des comparateurs d'agences.